BFM Business et RMC Live présentent la matinale de l'économie. Good morning business. Sandra Gandoin.
Il est presque 7h, bienvenue dans la matinale de l'économie. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 9h sur BFM Business. Donald Trump sort donc à nouveau la carte droit de douane sur une soixantaine de partenaires commerciaux. Entrée en vigueur lundi, l'Europe est visée mais se veut rassurante. On va en parler avec notre correspondant à Bruxelles dans un instant. Car dans ce contexte, l'Union européenne vient d'infliger à l'américain Google la plus lourde sanction jamais donnée au titre du DMA. 900 millions d'euros pour non-respect du règlement européen sur les marchés numériques. Explication tout à l'heure de Noah Domain. Les autres titres, Léo Dumas, ce matin.
Le feu vert des banques pour le plan de restructuration de Daniel Kretinsky chez Casino. Carrefour dans le vert au premier semestre, malgré des difficultés au Brésil. Et puis, démarrage record pour l'Odyssée qui propulse Montpellier, sa salle IMAX, comme nouvelle capitale du cinéma.
Dans la prochaine heure, fallait-il laisser les taux inchangés alors que certains gouverneurs ont montré des signes de rébellion dans un contexte géopolitique tendu, la BCE a laissé ses taux inchangés lors de sa réunion hier. On va en parler dans le débat dans 10 minutes avec Étienne Braque et Emmanuel Lechypre. Et puis on abordera cette question également, mais aussi le budget, l'année présidentielle, la politique américaine. Dans le grand entretien, je recevrai Emmanuel Boulin, gouverneur de la Banque de France, qui analysera cette situation pour nous. Ce sera à 7h45. Toutes nos chroniques, tous nos invités, la matinale de l'économie. C'est parti, soyez les bienvenus.
Écoutez BFM Business dans les grandes villes de France. En live ou en podcast sur bfmbusiness.com.
Good morning business. Le journal.
Confirmation cette nuit sur les nouveaux droits de douane américains, Léo.
Mais ils sont déjà entrés en vigueur il y a tout pile une heure. Quand il était minuit à Washington, ils visent cette fois les 60 principaux partenaires commerciaux des États-Unis à hauteur de 10 à 12,5% au motif de la lutte contre l'esclavage moderne. C'est ce qui est écrit dans le communiqué de l'administration Trump. Un prétexte contesté déjà depuis des semaines par plusieurs économies, dont l'Union européenne, qui s'était toutefois préparée à cette annonce. Et on vous retrouve à Bruxelles, Pierre Benazet, pour BFM Business ce matin. Quel est l'état d'esprit de la Commission européenne ?
La Commission européenne se veut rassurante. Elle estime que les États-Unis n'ont pas de raison de remettre en cause la trêve commerciale signée à Turnberry le 27 juillet de l'an dernier et entrée en vigueur le 1er juillet dernier. Cet accord qui limite à 15% les droits de douane. Elle estime aussi qu'avec les contacts qui ont été pris avec l'administration Trump ces derniers temps, les médicaments génériques européens seraient épargnés par les nouveaux droits de douane dont menace la Maison Blanche. Bref, c'était plutôt un discours rassurant de la part de la Commission, même si une certaine inquiétude s'est fait jour ici après l'amende de 890 millions d'euros décidée ce jeudi à l'encontre de Google. Une amende qui a suscité des commentaires acerbes de la part de Jamieson Greer, le représentant américain au commerce, qui estime qu'elle sape la stabilité et la prévisibilité des relations commerciales entre les États-Unis et l'Union européenne.
Merci Pierre Benazet à Bruxelles. Effectivement, cette amende annoncée hier contre Google est complètement inédite, quasiment 1 milliard d'euros. Pour des manquements donc aux règles de la concurrence que nous explique Noah Domain.
890 millions d'euros, c'est la plus lourde sanction jamais infligée au titre du DMA, dont est comme Google, pour non-respect du règlement européen sur les marchés numériques. Dans le détail, 460 millions d'euros lui sont infligés pour avoir favorisé ses propres services dans les résultats de son moteur de recherche, au détriment de ceux de ses concurrents. S'y ajoutent 430 millions d'euros pour avoir empêché les développeurs d'applications de rediriger les utilisateurs vers des offres moins chères, en dehors de son magasin d'applications Play Store. Selon Bruxelles, cette décision est essentielle pour garantir des conditions de concurrence équitables entre toutes les entreprises du numérique. Cette sanction risque d'alimenter la colère de Washington. L'administration Trump accuse Bruxelles de cibler injustement les champions américains de la tech. 25 parlementaires ont écrit à Donald Trump pour lui demander d'agir en représailles contre l'Union européenne si elle persistait à exercer des lois, des politiques ou des pratiques discriminatoires dans le secteur numérique. Google dispose désormais de 60 jours pour se mettre en conformité avec le DMA, sous peine de nouvelles sanctions financières.
Google, qui par ailleurs a lancé cette semaine en France ses résumés d'intelligence artificielle en ligne et qui viole déjà ses engagements, accusent les éditeurs de la presse magazine. Le déploiement est intervenu sans information préalable et sans négociation, contrairement à ce qui a été dit aux régulateurs, selon ce syndicat qui craint donc une perte de trafic sur les sites des médias. Maintenant, Google produit de l'information informations à partir de leurs articles en ligne.
Feu vert des banques pour le plan de restructuration financière de Casino, Léo.
Oui, elles donnent leur accord de principe aux conditions qui ont été posées par le conseil d'administration sur la restructuration de la dette du groupe. Et alors, Nathan Cocampo, c'est là une victoire pour le principal actionnaire, Daniel Kretinsky.
Oui, le milliardaire tchèque fait l'objet depuis novembre d'un bras de fer avec une partie de ses créanciers. Pour rappel, sur la table, une importante réduction de la dette. Casino doit rembourser 1,4 milliard d'euros d'ici mars prochain. Le plan de Daniel Kretinsky vise à convertir une partie de cette dette en actions, environ 650 millions d'euros, avec en parallèle un apport de capital d'environ 600 millions d'euros d'argent frais. Donc, neuf fonds s'y opposent. Alors, Daniel Kretinsky a demandé aux banques de revoir leurs garanties pour réduire leur capacité à bloquer cette restructuration. Les six banques françaises acceptent donc les conditions validées par le conseil d'administration le 10 juillet.
Dans le détail, Nathan, les banques valident deux points essentiels.
L'accord prévoit que les créanciers TLB, les investisseurs ayant prêté de l'argent au groupe via des prêts à long terme, et donc de nouvelles garanties financières, les banques acceptent de partager leur paquet de sûreté avec ces créanciers. L'autre point est plus stratégique. Les banques lèvent aussi la condition suspensive. Elles acceptent de maintenir leur financement même si les deux tiers des créanciers TLB n'approuvent pas le plan. Autrement dit, Daniel Kretinsky peut poursuivre la restructuration du groupe sans être bloqué par une minorité de créanciers. Mais le bras de fer se poursuit et c'est maintenant à la justice de valider ou non ce plan de sauvegarde. Une décision défavorable remettrait en cause la restructuration voulue par Kretinsky et ferait peser un risque majeur sur Casino à l'approche de l'échéance de sa dette.
Merci Nathan Cocampo. Avant de parler des résultats de Carrefour, ce nouveau rebondissement dans le dossier du BHV, puisque le magasin parisien serait en cessation de paiement. C'est en tout cas la suspicion de l'inspection du travail qui l'a signalé à la justice française, selon l'AFP, qui confirme là une information de Mediapart. Alors que l'enseigne a été accusée de nombreuses fois de ne plus payer ses fournisseurs, la nouvelle direction se dit prête à prouver le contraire devant la justice et elle assure que 80% de sa dette a d'ores et déjà été restructurée ces dernières semaines. Dans le secteur de la distribution, donc, les résultats de Carrefour hier soir avec des ventes en hausse de plus de 2% sur les 6 premiers mois de l'année, plus 4% même pour le résultat opérationnel à plus de 750 millions d'euros, Étienne Braque, avec notamment une consommation dopée en fin de semestre, à la fois par la canicule et aussi par la Coupe du Monde.
Fnac Darty avait fait exactement le même constat à mercredi en publiant ses résultats. Et hier soir, vous avez le directeur financier de Carrefour qui vous dit typiquement, au mois de juin, on a vendu plus de 200 000 climatiseurs ventilateurs, quand au rayon surgelé, on a vendu 7 millions de paquets de glace en l'espace d'une semaine. Donc forcément, ça a un impact non négligeable et ça a permis d'une certaine façon de rattraper le semestre qui était compliqué sur les premières semaines de partie de l'année et puis qui finalement a été bon à la fin du mois de juin. Le mondial de football a permis d'augmenter de son côté les ventes de téléviseurs et c'est pas négligeable parce que le rayon non alimentaire, c'est un rayon qui est plutôt rentable pour la grande distribution et c'est un rayon qui a été délaissé forcément ces dernières années pour Carrefour comme pour l'ensemble de la grande distribution au détriment bien sûr des grands acteurs du e-commerce que l'on ne va pas citer. En dehors de ces effets exceptionnels, il est intéressant de voir que le Brésil, qui a longtemps été la locomotive du groupe, cale avec notamment une inflation très forte au Brésil à deux chiffres qui est désormais défavorable. L'intégration du groupe Big acheté en 2022 qui est plus lourde qu'anticipé. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'Espagne, qui est un marché clé, continue de surperformer. Quand en France, ça va mieux grâce notamment encore et toujours à l'intégration des magasins Cora, mais aussi à un positionnement prix plus offensif face à Leclerc qui est bien sûr son principal challenge.
Merci Étienne. Ces dernières heures aussi, les résultats de Valeo, Léo.
Oui, et Valeo a confirmé ses objectifs annuels, l'équipementier auto qui est pourtant dans un secteur déprimé et qui multiplie les sources de diversification. Il vient notamment de signer un premier contrat dans la défense, Justine Bassogne.
Le marché automobile ne va plus progresser en volume, estime Valeo. Cette croissance-là, souffle-t-on en interne, est derrière nous. Il faut donc aller la chercher autrement, apporter plus de valeur ajoutée dans les véhicules en misant sur l'électrification et les aides à la conduite, mais aussi aller voir ailleurs, dans la défense d'abord. Valeo vient de signer un contrat avec la start-up Armatan AI pour équiper ses drones en moteurs sans terre rare lourde. La production devrait commencer en 2027 dans une des usines françaises du groupe. Un contrat qui en appelle d'autres. L'équipementier est en discussion avec d'autres acteurs de la défense. Pour le moment, on ne parle pas encore de chiffre d'affaires. L'activité n'est pas prise en compte dans les objectifs financiers, nous dit-on. C'est du bonus. Valeo, qui sait déjà refroidir des batteries électriques, veut maintenant appliquer cette technologie au data center. Le groupe est actuellement en phase de test avec différentes entreprises du secteur. Il compte bien se positionner sur ce marché qui pourrait peser, selon lui, 50 milliards de dollars d'ici à 2035.
On parlera de ces résultats et de cette diversification avec Christophe Périllat, directeur général de Valeo, qui sera sur ce plateau à 8h20 dans Parole de Patron. Déjà près de 2 millions d'entrées en France, Léo, après une semaine d'exploitation pour l'Odyssée de Christopher Nolan.
Le premier film tourné intégralement dans le format IMAX, qui signe donc le meilleur démarrage de cette année en France, et ça profite logiquement aux salles IMAX, à commencer par celle du Pathé Odysseum à Montpellier, Eline Le Faou.
Ulysse a bien mis 10 ans pour retrouver son chemin jusqu'à Ithaca, alors prendre un train de quelques heures pour le voir dans les meilleures conditions possibles semble indispensable pour bon nombre de cinéphiles. Plus 31% de réservations de train vers Montpellier pour la première semaine d'exploitation du film par rapport à la même période l'an dernier, plus 85% depuis Paris, plus 26% depuis Lyon selon les derniers chiffres de Trendline. Depuis le 15 juillet, Montpellier s'impose donc comme la capitale du cinéma. Il faut dire que son Pathé Odysseum dispose de la seule salle en France et l'une des trois en Europe avec Bruxelles et Prague à pouvoir diffuser le blockbuster de Christopher Nolan dans le format souhaité par le réalisateur. Avec l'IMAX 70 mm, fini les bandes noires, son écran immense permet une diffusion du film avec une qualité inégalée dans un format immersif qui semble donc justifier les 30€ d'entrée selon les premiers retours et qui semble donc aussi justifier un aller-retour vers Montpellier, hôtel parfois en prime. Même constat d'attractivité dans les 40 autres salles IMAX 70 mm existantes dans le monde. Elles ont déjà réalisé plus de 6 millions de dollars de recettes. Les séances à Montpellier sont quasi pleines jusqu'à la mi-août.
7h10, les marchés. Étienne Brac, une séance difficile pour Alphabet après ses résultats hier.
Oui, Google qui a publié ses résultats mercredi a dégringolé les de 7% hier soir à la clôture. On en parlait hier matin, c'était largement au-delà des attentes. Mais le groupe a revu à la hausse ses CAPEX, ses capacités d'investissement pour 2026, mais également pour 2027. Et ça fait peur au marché. Et Wall Street a un petit peu bu la tasse après la publication de ses résultats, surtout pour le Nasdaq qui a clôturé sur une baisse de plus de 2% hier soir, moins 1,2% pour le S&P 500, sans compter que Tesla s'est effondré quand même de 14% après la publication de ses résultats. Le groupe vend ses véhicules moins chers, les marges sont en baisse et ça, bien sûr, ça n'a pas du tout plu aux analystes. Ça pèse également sur la séance en Asie cette nuit. Le Nikkei au Japon perd quasiment 3%. On est désormais sur un moins 7 depuis le début du mois. Et puis, il sera encore beaucoup question de tech aujourd'hui pour cette dernière séance de la semaine, dans le sens où hier soir, vous avez SAP, qui est, quoi, vous rappelle, le premier éditeur européen de logiciels qui perd 40% depuis le début de l'année, qui a publié ses résultats, avec un groupe qui est prudemment confiant. Ça sera intéressant de voir la réaction tout à l'heure à l'ouverture à Francfort à 9h. Et puis du côté de Wall Street, c'est Intel hier soir qui a publié ses résultats avec un titre qui était en forte hausse et pour cause. Eh bien, il y a de plus en plus de puces Intel dans les data centers. Le chiffre d'affaires est en hausse de plus de 25% au deuxième trimestre, largement au-delà des attentes.
Très vite, le conflit au Moyen-Orient continue. 13e nuit de reprise des affrontements. Le pétrole monte, du coup, et franchit les 100 dollars.
Oui, ça y est, la barre symbolique est franchie pour la première fois depuis le mois de mai. On est quand même sur une hausse de 40% du pétrole depuis le début du mois de juillet, avec désormais deux couloirs maritimes qui sont quasiment bloqués. Donc forcément, ça a un impact, et surtout pour les exportations de pétrole vers l'Asie. Et tout cela n'arrange pas, bien sûr, la BCE, on en reparle dans un instant, mais surtout la Fed. Désormais, le marché anticipe à 80% une hausse de taux de la part de Kevin Warch au mois de septembre.
Restez donc sur ce plateau, Étienne Brac, c'est le débat.
Good morning business, face à Le Chypre.
Étienne Brac face à Emmanuel Le Chypre. Et effectivement, la BCE a laissé ses taux inchangés lors de sa réunion hier. Est-ce qu'elle a bien fait, Emmanuel Le Chypre?
Elle a surtout rien appris. C'est ça qui est quand même assez désespérant. Déjà, il n'y aurait pas dû avoir de dernière hausse des taux. Donc, la BCE, son action, elle est quand même assez inquiétante. Rappelez-vous, en 2022, elle nous avait dit « Oh lolo, attention, problématique d'approvisionnement, choc pétrolier ». Elle nous avait dit au départ « Attention, l'inflation, elle est transitoire ». Et puis, elle a fait la plus forte hausse des taux de toute son histoire. Elle a cassé la croissance. Elle a rien compris parce qu'elle anticipait une boucle prix-salaire. En fait, ce qu'on a vu, c'était surtout une boucle prix-profit, et puis l'inflation est repartie comme elle était venue. L'action de la BCE n'y a rien changé. Alors, elle avait des excuses, parce que, rappelez-vous, à l'époque, 2022, personne dans les milieux économiques, et quand je dis personne, c'est-à-dire les banquiers centraux, les gens sur les marchés, les dirigeants politiques, ne savaient plus ce que c'était que l'inflation. Donc, même les consommateurs ne savaient plus ce que c'était. Donc, on s'est retrouvé, ah là là, on n'a pas connu ça depuis les années 70, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, on ressort le vieux même logiciel, hausse des taux, inflation, etc. Bon, on s'est rendu compte que ça n'était plus le cas. Et là, moi, ce qui me sidère aujourd'hui, c'est même pas tellement le fait qu'elle ait bougé ou pas bougé, c'est le discours qu'il y a derrière. Oui, attention, septembre, l'inflation, etc. Mais non, pas plus demain qu'en 2022. Donc, il faut rappeler qu'un choc pétrolier, c'est une ponction sur la croissance économique. C'est comme une taxe supplémentaire. Donc, le risque, c'est pas l'inflation. Le risque, c'est la croissance. Donc, c'est de ça que devrait se préoccuper la BCE. Que monter les taux ne produira pas une goutte de pétrole supplémentaire. Et je rappelle que la hausse des prix du pétrole, elle est pas liée à une surchauffe de la demande et aux difficultés de produire du pétrole. Elle est liée à l'interruption des livraisons de pétrole. Et ça, c'est pas du tout la même chose. Le contexte économique, enfin, c'est quoi ? C'est que l'activité européenne est quand même très faible et que de toute façon, il peut y avoir une hausse des taux. Ça met toujours très longtemps à se diffuser. Donc, encore une fois, moi, je suis très inquiet que la BCE n'ait rien appris des 5 dernières années.
Étienne Brack.
Qu'on soit bien d'accord, je ne pense pas qu'il faut remonter les taux, mais il faut pas surestimer l'impact de la BCE. Loin de là, certes, elle a remonté ses taux au mois de juin, mais la BCE, on essaye de la mettre un petit peu sur un totem, c'est pas le bouc émissaire. Aujourd'hui, le problème des investisseurs, des entreprises, des ménages, c'est la confiance. Demain, vous pouvez relever les taux de 25 points de base ou pas, c'est pas ça qui va changer la confiance, loin de là. Imaginons demain, les taux sont à 1,75, ils sont à 2,25 aujourd'hui, ça va pas donner plus de visibilité sur le conflit au Moyen-Orient, sur la politique en France avec la présidentielle l'année prochaine, ou encore sur les problèmes de compétitivité. En clair, il faut pas tout attendre de la BCE, loin de là, c'est pas la condition sine qua non. Emmanuel en parle souvent. Aujourd'hui, c'est quoi le problème en Europe ? Les réformes structurelles. Si demain les taux sont plus bas, est-ce que ça va inciter la France à se bouger sur les problèmes budgétaires ? Non, pas du tout. Au contraire, la politique industrielle, ça n'a rien à voir avec la BCE. Le manque de visibilité, eh bien, c'est sur la réglementation, notamment sur le secteur automobile. Vous voyez bien en ce moment tout ce qui se passe. En clair, aujourd'hui, en France, que ce soit les ménages, les entreprises et même Bercy, hein, d'une certaine façon, payent les erreurs de nos politiques, hein, les politiques de ces dernières années, mais pas les politiques monétaires.
Emmanuel Le Chypre, vous avez fait de la BCE un bouc émissaire.
Non, j'ai pas fait de la BCE un bouc émissaire. Simplement, alors j'entends très bien ce que dit Étienne et il a raison. La BCE, ça n'est pas elle qui détient toutes les clés de l'activité et de la croissance. Mais si au moins, parmi la liste de tous les problèmes qu'a cité Étienne, la BCE pouvait ne pas être un problème supplémentaire, ce serait quand même quelque chose d'assez appréciable. Et encore une fois, envoyer le signal, et c'est là où je suis pas tout à fait d'accord avec Étienne, la confiance, si la confiance, elle dépend en partie du discours de la BCE et du niveau des taux d'intérêt. C'est-à-dire que si la BCE envoyait aujourd'hui un signal plutôt pro-activité en disant on soutient la croissance plutôt que on se méfie d'une inflation imaginaire, eh ben je pense que ça aurait un impact quand même à la marge positif sur les entreprises et sur les consommateurs.
Mais elle a besoin d'ancrer les inflations, elle a besoin de dire qu'elle est là. D'ailleurs, la hausse du mois de juin, c'était quand même une hausse de communication. Et par rapport à ces phénomènes de baisse de taux, on lui a longtemps reproché sur la période 2015-2022 que les taux étaient à zéro. Il y a quand même eu des effets pervers, notamment sur la politique budgétaire, sur des bulles, notamment sur certains secteurs dans l'immobilier. Et puis surtout, n'oublions pas qu'on est dans un monde qui est totalement globalisé. Le bon exemple en ce moment, c'est le Japon. Vous voyez bien qu'en ce moment, ce qui fait bouger le yen et les taux japonais, c'est pas du tout la décision de la BOJ, c'est la Fed. Et ça, depuis plusieurs semaines, on en parle maintenant, c'est la fin de l'ère Powell, maintenant c'est Kevin Warch. Et au final, l'euro, les taux en Europe, ils dépendent aussi de Kevin Warch qui va parler la semaine prochaine, mais aussi du mois de septembre. Donc en fait, la BCE, elle peut pas dire on va avoir une politique hyper accommodante, parce qu'à la fin, l'effet immédiat sur le marché obligataire et in fine sur la production de crédit, eh bien, ne serait pas aussi forte qu'escompté.
Un monde de plus en plus complexe à lire. Merci messieurs, ça fera l'objet d'un autre débat, ce que vous alliez dire, Emmanuel Le Chypre. Tout de suite, l'international, la chronique inter.
Good morning business, la matinale de l'économie.
Et nous partons ce matin aux États-Unis. Les stars de la tech ont désormais l'oreille de Donald Trump et une influence considérable sur le mouvement MAGA. Mais leur rêve d'une Amérique gouvernée par l'IA commence à agacer la base trumpiste. Annalisa Capellini et Mathieu Jolivet nous expliquent pourquoi le prochain grand clivage politique américain pourrait opposer les hommes aux machines.
Peter Thiel, Elon Musk, David Sachs, Mark Andreessen, le point commun entre toutes ces stars de la tech, Mathieu, c'est qu'ils ont tous l'oreille de Donald Trump et ils sont tous montés en puissance au sein de la sphère MAGA.
Oui, et d'ailleurs, ça s'est vu lors de la dernière grande conférence du Parti conservateur. C'était en septembre l'année dernière. Ce qui frappait, c'était la place accordée à la technologie et notamment à l'intelligence artificielle. Il y avait des panels sur l'IA et l'âme américaine, la censure de l'IA et les nouveaux mécanismes de contrôle, ou encore sécurité nationale et technologie. Et tous ces thèmes, ils ne sont pas neutres. Ça montre à quel point la tech et l'intelligence artificielle ont infusé dans une partie de la doctrine conservatrice sous l'ère de Donald Trump. Et derrière toutes ces interventions, eh bien, plane l'ombre de plusieurs seigneurs de la tech qui ont tous l'oreille de Donald Trump. Alors Elon Musk, bien sûr, ou encore David Sachs, qui est le cofondateur de PayPal et qui est le conseiller de Donald Trump à la Maison Blanche. On le surnomme le tsar de l'IA. Mais il y a aussi, bien sûr, Peter Thiel, qui est philosophe, entrepreneur et fondateur du tout-puissant Palantir. Ils sont, en fait, tous ces seigneurs de la tech, ce qu'on appelle des techno-libertariens. En fait, leur rêve ultime, c'est de bâtir une république technologique et qui n'est pas forcément démocratique. Une république où l'État est géré par des logiciels qui se nourrissent des data des citoyens. Une république où l'innovation supplante la régulation, où l'IA, la tech remplace tous les modèles étatiques tels qu'on les connaissait jusqu'à aujourd'hui. Et donc, ils prônent tous une forme de verticalité du pouvoir qui est très loin des systèmes démocratiques actuels. Et ça peut paraître un peu de la science-fiction, mais quand on voit la puissance des logiciels de Palantir et comment ils sont utilisés par l'administration Trump, eh bien, on y est.
C'est assez frappant parce que ce courant de pensée qui est incarné par Peter Thiel, en réalité, est loin de cocher toutes les cases du trumpisme. Trump s'est fait élire par des courants très hétérogènes. C'est un cocktail très amusant entre les nationalistes conservateurs qui réclament le retour des frontières, la droite chrétienne ultra-réactionnaire qui brandit la morale et donc ces techno-libertariens qui ont finalement des âmes d'entrepreneurs et qui, au fond, aimeraient qu'on ouvre les frontières, qu'on dérégule pour innover à fond. Ce qui est intéressant, c'est que Trump, lui, est tout l'inverse sur certains points. Il a un instinct protectionniste, il utilise les guerres tarifaires, il a une idée d'État interventionniste qui veut défendre l'Amérique industrielle, et ben tout ça, évidemment, n'a rien de libertarien au fond.
Oui, et ce qui est intéressant, c'est que la base populiste de Donald Trump, eh bien, elle commence à s'agacer de ce courant tech. En particulier, il s'agace des data centers qui remplacent leurs bonnes vieilles usines. Les méga fermes de data centers dans les champs, ça passe mal. Et on voit émerger un nouveau concept aux États-Unis, le concept de Wired Belt, la ceinture connectée. Un peu comme la Rust Belt, qui désigne cette ceinture géographique où les usines ont fermé, qui sont un terreau du Trumpisme. D'ailleurs, là où J.D. Vance a construit son ADN politique, et ben cette Wired Belt, cette ceinture connectée, désigne tous les États américains qui sont les plus connectés, ceux où il y aura le plus de puissance de calcul, là où l'IA percutera le plus les emplois. Et cette Wired Belt, et bien, elle traverse des États clés de Donald Trump, comme l'Arizona, le Texas ou l'Ohio.
Il faudra bien surveiller la place que prendra cette contestation dans les élections de mi-mandat qui arrivent à l'automne. Mais il y a bien un courant anti-tech, human first, l'humain d'abord, qu'a pris l'ancien conseiller de Trump, Steve Bannon, qui est toujours très très influent dans la sphère MAGA. L'idée, c'est que le populisme ne repose plus seulement sur un clivage du peuple contre les élites, mais un clivage des hommes contre les machines. Donc il est en train d'inventer finalement un nouveau populisme IA qui lui sera bien déterminant pour les élections de demi-mandat et pour voir encore un peu plus loin pour la présidentielle de 2028 après.
Good morning business, le pitch.
Le pitch aujourd'hui c'est avec Ramata Prose. Bonjour, vous êtes la fondatrice de Vagance. Une minute pour pitcher et on débrief.
C'est parti. Bonjour, je m'appelle Ramata Prose. Je suis docteur en pharmacie et fondatrice de Vagance. Donc l'histoire de Vagance commence il y a plus de 10 ans, lorsque je constate à mes dépens que certains produits capillaires abîmaient plus qu'ils ne soignaient. J'ai ainsi faire quelque chose pour ça. D'ailleurs, plus largement, la Sister Study aux États-Unis a démontré que le cancer de l'utérus est accru de 80% pour les personnes qui utilisent les produits défrisants. Une fois qu'on sait ça, on a envie de ne plus utiliser de défrisants. Et on apprend du coup à prendre soin de son cheveu tel qu'il est. On l'assume. Et c'est pour ça que j'ai développé Vagance, une marque de soins cosmétiques pour cheveux texturés et barbe, minimaliste, utilisable dès un an, rechargeable et responsable dans le sens où on diminue de 85% l'empreinte carbone de nos produits. Aujourd'hui, Vagance est adopté par des coiffeurs. Et on est déjà primé aux Victoires de la Beauté. Et l'ambition, c'est de devenir une référence clean et premium auprès de ces personnes-là.
Il ne faut pas utiliser de produits défrisants. Je suis de tout cœur avec vous dans ce combat, bien évidemment. Il commence à y avoir du monde sur le marché du cheveu. Alors, bon, moi, je dis frisé. Je me sens pas insultée quand on dit frisé.
Non.
Vous dites texturé, mais
texturé parce que
c'est tout ce qu'on parle, les cheveux lisses, quoi.
Exactement,
gros.
C'est non lisse. Donc, c'est ondulé, bouclé, frisé, crépu.
Comment on fait pour se démarquer? Parce qu'il commence à y avoir pas mal de produits, quand même.
On est d'accord. L'idée, c'est d'avoir un positionnement. Donc, moi, vraiment, celui que j'ai pris, c'est l'aspect sain, santé. C'est les cosmétiques santé que j'ai voulu apporter aujourd'hui. C'est vraiment ça qui m'a marqué dans mon histoire. Le fait de vivre des pertes de cheveux, des déséquilibres hormonaux, c'est absolument anormal avec un cosmétique.
Mais alors, c'est une accusation assez grave. Vous dites que les produits qui sont en vente aujourd'hui sur le marché, ils sont pas bons pour la santé. Donc, est-ce que c'est une réalité et comment vous le prouvez et comment vous faites mieux, du coup, que ce qui existe sur le marché?
Alors, j'ai vraiment cibler la partie défrisant chimique. Donc c'est quelque chose sur lequel il y a des études depuis des années qui sont réalisées aux États-Unis parce que là-bas on peut faire des statistiques ethniques, contrairement à en France par exemple. Il y a des démarches qui sont en cours auprès de la FDA depuis 2023 où il y a des recours, des personnes, des recours collectifs qui montent cette information. Donc c'est vraiment réel. Et le contre-pied du défrisage finalement c'est d'assumer ses cheveux, de ne pas utiliser ces produits. Et aujourd'hui les marques dont vous parlez effectivement se positionnent sur assumons notre produit au nos cheveux au naturel et utilisons des produits qui sont sains pour nous. Le positionnement ensuite, c'est vis-à-vis de sa sensibilité en termes de consommateur. Une cosmétique saine, une cosmétique qui n'impacte pas sa santé, une cosmétique qui est utilisable par toute la famille, vraiment.
Eva, vous avez parlé de premium dans votre pitch,
oui.
C'est-à-dire que vos produits, ils coûtent combien? Et pour l'instant, comment se démarque votre activité entre le B2B et les coiffeurs et le B2C?
Alors aujourd'hui, la tranche de prix, donc j'ai une gamme vert et une gamme recharge. La gamme vert est entre 30 et 32 euros à 36 euros. Et la gamme recharge de 22 euros à 28 euros. Donc il y a 6 euros de différence pour que le modèle économique, c'est comme ça qu'on l'a envisagé. Au niveau B2B, B2C, donc j'ai un e-shop où je réalise à peu près on est à 60-40 aujourd'hui entre le B2B et le B2C.
Vous êtes docteur en pharmacie.
Oui.
Comment vous avez développé votre marque? Où est-ce que vous êtes allé trouver les fonds pour développer cette activité-là?
Alors au démarrage, j'ai démarré sur fonds propres.
Ouais.
Mais ensuite, je me suis fait accompagner par les structures, la CCI, pour pouvoir monter des dossiers auprès de la BPI. Donc j'ai aussi une bourse French Tech Touch auprès de la BPI. Et j'ai pu avoir accès à des prêts bancaires.
Et du coup, vous êtes docteur en pharmacie, donc vous avez votre laboratoire, et c'est là que vous avez conçu en fait les recettes que vous commercialisez aujourd'hui?
Alors, j'ai commencé à la maison. Ensuite, je suis allée dans des laboratoires pour formuler moi-même, me faire accompagner parce qu'il y a tout le cadre réglementaire du cosmétique à respecter. Et aujourd'hui, je fais fabriquer en sous-traitance dans un laboratoire près d'Orléans.
Restez avec nous dans un instant. On va reparler de cette politique, de cette décision de la BCE hier. Les taux sont restés inchangés. On va écouter Christine Lagarde. On en parlera aussi dans un quart d'heure avec Emmanuel Moulin, le gouverneur de la Banque de France, qui est avec nous dans le grand entretien sur ce plateau. À tout de suite.
Good morning business. Le journal.
7h31, les titres, Léo.
Statu quo à la BCE qui maintient une approche réunion par réunion, mais qui ouvre la voie à une hausse des taux à la rentrée. Les mots de Christine Lagarde, le débrief d'Étienne Brack dès le début de ce journal. Donald Trump veut utiliser les avoirs gelés des Iraniens pour rembourser les dégâts qu'ils causent dans le détroit d'Hormuz. Et puis, la 350 d'Airbus vient de faire Toulouse-Melbourne sans escale en moins de 20 heures. Pas de surprise donc à Francfort hier, mais visiblement on n'est pas passé très loin. En tout cas, la perspective d'une hausse des taux a été évoquée dès cette réunion, dit Christine Lagarde, la présidente de la BCE, qui s'inquiète de la reprise du conflit au Moyen-Orient. Écoutez.
The risks to the inflation outlook
Les risques pesant sur les perspectives d'inflation sont orientés à la hausse. Le choc énergétique pourrait s'aggraver encore et ses répercussions sur les autres prix et les salaires pourraient être plus importantes que ce qui est actuellement prévu. Certains gouverneurs se sont d'ailleurs demandé si nous ne pourrions pas envisager une hausse et relever les taux d'intérêt à l'occasion de cette réunion.
Et on le comprend en entendant Christine Lagarde, Étienne Brack, la BCE sur un numéro d'équilibriste.
Un numéro d'équilibriste, souvenez-vous, le 11 juin, la BCE augmente ses taux à 2,25. C'est effectif une semaine plus tard, le 17 juin. Et au même moment, vous avez Donald Trump qui annonce qu'il va signer un préaccord avec l'Iran. Et là, tout d'un coup, on a le baril de pétrole qui passe de $90 début juin à $75 début juillet. Les commentateurs reprochent alors à la BCE d'avoir relevé ses taux. La BCE est décrédibilisée. Christine Lagarde, fin juin, début juillet, au forum de Sintra, tente de calmer un petit peu le jeu en disant que la Banque Centrale Européenne ne va pas remonter ses taux au mois de juillet. Alors certes, elle n'a pas remonté ses taux hier, mais sauf que le problème, c'est que depuis ce fameux forum de Sintra, fin juin, début juillet, le pétrole a repris 40%. Donc en fait, vous avez une BCE qui est sur un numéro d'équilibriste parce qu'elle passe son temps, et pas que, à regarder le pétrole, un petit peu les taux d'intérêt. Elle voit que le Bund en Allemagne est sur des plus hauts de 15 ans, que le 10 ans français est à 4%, là également sur des plus hauts de 15 ans, et elle ne maîtrise pas du tout aujourd'hui le conflit en Iran, ses conséquences, à commencer par, bien sûr, les prix de l'énergie avec ce baril de pétrole qui est ce matin à nouveau au-delà des $100 pour la première fois depuis le mois de mai. Exercice très délicat, donc visant à dire je suis là, je vais combattre l'inflation, je suis la présidente de la BCE, ne vous inquiétez pas, je maîtrise la situation, et en même temps ne pas surréagir, ne pas remonter les taux pour qu'après, on lui reproche. Surtout que pour l'instant, on a quand même des effets de second tour qui sont très maîtrisés par rapport à 2022, que ce soit bien sûr sur les salaires, mais également sous les indicateurs sous-jacents.
Et oui, merci Étienne Brack. $100 ce matin, le baril de Brent après une hausse de plus de 6% sur la journée d'hier avec ses tensions maximales au Moyen-Orient. Désormais, de la mer Rouge jusqu'au détroit d'Ormuz où Donald Trump vient de sortir une nouvelle carte. Il prévient cette nuit Téhéran que tous les dommages causés aux navires ou aux cargaisons seront désormais payés par l'argent iranien gelé et détenu par les États-Unis. L'Iran qualifie dans la foulée cette décision de précédent incendiaire.
Et dans le même temps, l'OAT à 10 ans a franchi le seuil des 4% hier, Léo.
Là aussi, avec ces tensions au Moyen-Orient et en France, c'est un plus haut jamais atteint depuis octobre 2008, en pleine crise financière, et ce cap symbolique met le pays particulièrement sous tension à l'approche du budget, Caroline Morisseau.
Les investisseurs font monter la pression. La hausse du prix du pétrole, le risque de regain d'inflation et d'un resserrement monétaire alimentent les inquiétudes, de quoi provoquer une hausse généralisée des taux monétaires. Tous les pays sont concernés. Le Bund, le taux à 10 ans allemand, a lui aussi grimpé pour atteindre un plus haut depuis 15 ans. Mais la France est particulièrement sous tension, avec une dette à plus de 3 500 milliards d'euros, soit 117% du PIB. Notre charge de la dette a bondi. Selon les derniers chiffres de Bercy, elle devrait déjà atteindre plus de 64 milliards d'euros cette année, soit quasiment deux fois plus qu'en 2019 avant la crise Covid. Toute hausse des taux vient encore alourdir la facture. De plus en plus de voix pressent la France d'agir avant qu'il ne soit trop tard. La semaine dernière encore, quatre économistes missionnés par Bercy évoquaient un poison lent. Reste que la difficulté à faire passer un budget à quelques mois de l'élection présidentielle risque encore d'alimenter la défiance.
Le budget en France et les esprits s'échauffent sur le doublement des franchises médicales, Léo.
Annoncé par le gouvernement hier, pour freiner la croissance des dépenses de santé, en clair, les patients vont désormais payer jusqu'à 200 euros par an de leur poche sur les boîtes de médicaments, les consultations médicales, contre 100 euros jusqu'ici maximum. De quoi économiser 750 millions d'euros par an dans le budget, selon les échos. La mutualité française, elle estime de son côté le transfert des dépenses à 1,5 milliard d'euros vers les complémentaires, ce qui pèsera sur les assurés, préviennent-elles déjà. Dans le même temps, au Royaume-Uni, la deuxième décision budgétaire d'Andy Burnham, et c'est une nouvelle baisse de la fiscalité, cette fois pour les entreprises, puisque la taxe sur les pubs, les boîtes de nuit et les salles de concert va baisser de 20%, annonce faite par le Premier ministre britannique, directement dans un pub à Harlow, au nord de Londres.
Pubs need to know that... Les pubs doivent savoir que la cavalerie arrive. Pour moi, c'est notre patrimoine, c'est la culture de la classe ouvrière. Une fois que les pubs disparaissent, ils ne reviennent pas. Donc nous devons simplement indiquer quel soutien nous apporterons dès que nous pouvons. C'est pourquoi j'ai fait cette annonce précoce.
Près de Londres également, la clôture du salon de Farnborough. Et c'est Boeing qui s'est imposé sur les commandes commerciales. 173 ont été annoncées, principalement des 737 MAX et des 787 Airbus, n'est pas très loin. 154 contrats ont été rendus publics sur des A320 et 21 Neo.
Airbus qui vient de réussir son pari Toulouse-Melbourne en moins de 20 heures et surtout sans escale, Léo.
Oui, avec son A350-1000LR qui vient d'atterrir cette nuit en Australie après donc son premier vol d'essai ultra longue distance, un avion sur mesure pour le projet Sunrise lancé il y a 10 ans par la compagnie australienne Qantas et qui est donc en train de se concrétiser, Nathan Cocampo.
Près de 70 000 passionnés se sont connectés à Flight Radar pour suivre le trajet de cet A350 révolutionnaire. Un record d'audience, il faut dire que les 19 heures de vol tout juste effectuées par ce gros porteur marquent une étape majeure pour l'avenir des vols commerciaux. 17 000 km sans escale, c'est désormais accessible. Un mois et demi après son vol inaugural, le nouvel A350 d'Airbus, capable de transporter 238 passagers, repousse les limites avec son réservoir supplémentaire de 20 000 litres. Plus de carburant et moins de passagers, avec une cabine pensée pour anticiper les besoins physiologiques des passagers sur plus de 20 heures de vol, explique la compagnie australienne Qantas Airways, qui en a commandé 12. Le premier appareil sera livré en avril. Avec son projet Sunrise reporté plusieurs fois, Qantas souhaite relier pour la première fois Sydney à Londres sans escale en 22 heures de vol, 4 heures de moins par rapport au vol avec une escale. L'offre devrait être proposée en octobre 2027.
7h38, les marchés. Et la pluie de résultats cette fin de semaine, Nestlé hier a perdu 8%, Étienne Brack.
La bourse de Zurich, après la publication de ses résultats, la croissance des ventes était légèrement supérieure aux attentes, mais vous avez une direction qui s'est montrée prudente sur la deuxième partie de l'année, à cause notamment de la hausse des prix de l'énergie, mais aussi de la hausse des prix des transports. Et le problème pour Nestlé, comme pour l'ensemble du secteur de l'alimentaire, de l'agroalimentaire, c'est la capacité à pouvoir répercuter les hausses de prix. Alors ça, c'est une bonne nouvelle quand même pour la BCE de voir qu'aujourd'hui, contrairement à 2022, il est très compliqué de répercuter des hausses de prix. Et pour les actionnaires, c'est une source d'inquiétude. Et donc, le titre a clôturé sur une forte baisse hier, sachant qu'il cède quand même 30% sur les 5 dernières années. Du côté des publications d'entreprises, c'est plutôt rassurant chez SAP. C'est le leader européen des logiciels. Le titre gagne plus de 2% ce matin en préouverture, à moins d'une heure et demie de l'ouverture de la bourse de Francfort, grâce notamment à une forte croissance dans le cloud. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle pour SAP, qui arrive à rivaliser sur certains marchés face à certains acteurs américains qui sont également partenaires. D'autant plus que SAP, comme l'ensemble du secteur des logiciels, a souffert ces derniers mois à cause de l'intelligence artificielle. Le premier constat que l'on peut faire sur ces résultats semestriels, avec une grosse vague là, ces 48 dernières heures, c'est que vous avez des résultats qui sont conformes aux attentes, mais il n'y a pas de grande surprise. Il y a quand même une grande méfiance de la part des management qui revoient pas réellement leurs objectifs à la hausse, à part dans certains secteurs, notamment dans tout ce qui est puce, intelligence artificielle, data center. Ça montre quand même que l'environnement est très compliqué avec des chefs d'entreprise qui sont en première ligne face à la politique monétaire, bien sûr, on en parlait tout à l'heure, mais bien sûr face à la guerre en Iran et ses conséquences sur le consommateur.
Merci Étienne Brack, le meilleur du retail tout de suite.
Good morning business, morning retail.
Et aujourd'hui, on retrouve Eva Jaco dans les magasins Cash Converters, pionnier de la vente de produits d'occasion. Rendez-vous ce matin dans le flagship de Nanterre. Regardez.
Oui, ce Cash Converter est en train d'opérer sa transformation pour coller au nouveau concept. Il fait partie de la dizaine de magasins rénovés sur une cinquantaine de points de vente. Racheté il y a 2 ans pour 500 000 euros par l'entrepreneur Ahmed Chayeb, l'enseigne a depuis bénéficié d'un investissement de 5 millions d'euros en fonds propres. Après s'être séparé de 25 magasins, la nouvelle stratégie de repositionnement commence à porter ses fruits. Ce magasin met en place les nouveaux univers sur lesquels l'enseigne souhaite capitaliser. Au passage, elle a dû se séparer de certaines catégories qui ne fonctionnaient plus, comme la photographie, le bricolage ou encore les instruments de musique. Ce que nous confie Hugo Boy, il est directeur du réseau de Cash Converters.
Historiquement, donc Cash Converter était une enseigne qui était perçue comme très masculine et très typée brocante. Aujourd'hui, on a voulu vraiment effacer tout ça et se reconcentrer sur 5 grands piliers. La téléphonie, rayon historique de Cash Converter, l'informatique, high-tech de manière générale, tout ce qui peut être produit de la maison, électroménager, également tout ce qui va être culture ou encore un univers luxe avec de la maroquinerie et de la bijouterie entre autres.
Alors Hugo, historiquement, Cash Converter, c'était de la vente faite au comptoir. Ce comptoir, on le voit toujours, il est derrière vous. Mais aujourd'hui, vous faites appel à de nouvelles verticales.
Tout à fait. Donc, on a revu un petit peu notre modèle, à savoir qu'historiquement, Cash Converter, c'était uniquement de l'achat de produits d'occasion qu'on allait revendre directement dans les magasins. On a fait le parti pris aujourd'hui de transformer et d'avoir un modèle hybride. Aujourd'hui, on va être sur une offre qui va proposer à peu près 80% de produits d'occasion pour 20% de produits neufs. Par exemple, sur le rayon électroménager, aujourd'hui, on a capacité à proposer des prix qui sont ultra concurrentiels par rapport à des enseignes retail traditionnelles en les sourçant directement auprès des fournisseurs et en proposant du coup un tarif en magasin qui sera du coup toujours axé sur le pouvoir d'achat en priorité.
Parmi les catégories qui performent, la téléphonie arrive en première position, suivie de l'univers du luxe, de l'informatique et du gaming. Des produits que l'on peut toujours vendre au sein de l'enseigne, mais qui nécessitent pour certains des contrôles plus approfondis.
L'ensemble des produits chez nous, dans tous les cas, seront contrôlés. Par contre, effectivement, les produits à forte valeur, donc qui feront plus de 1 000 euros en général, vont subir un contrôle qui sera plus poussé. Notamment, par exemple, les pièces de maroquinerie sur lesquelles on va prendre un dépôt test, à savoir que le client nous laisse le produit pendant quelques jours, le temps de l'expertiser et de le certifier. Pour, par contre, les appareils, on va dire, high-tech, électroniques ou autres, là, on aura nos propres logiciels en interne avec des outils qui nous permettront de tester un petit peu tous les éléments technologiques pour garantir la pérennité du produit.
Aujourd'hui, sur la totalité de votre parc de magasins, vous en avez une quinzaine en intégré, mais l'objectif, c'est d'aller plutôt vers la franchise. Pourquoi ?
Pendant cette première année, suite à la reprise, l'objectif, ça a été d'éprouver justement notre nouveau modèle et notre nouveau concept. Maintenant, le but, c'est de le dupliquer à l'ensemble de ce réseau de franchisés et de conserver uniquement certains magasins en tant que flagship sur lesquels on pourra continuer à opérer notre formation et nos tests. Notre volonté, c'est vraiment de se diriger vers ce rôle de franchiseur à part entière.
À peine un an après la reprise, le réseau est à l'équilibre avec une croissance de 25% l'an dernier. Cash Converters vise 130 points de vente d'ici à 2030, principalement dans les zones d'activité. Même si à date le digital n'est pas une priorité, l'enseigne teste cependant de nouveaux usages comme le live shopping.
Restez avec nous dans la matinale de l'économie. Dans un instant, beaucoup de sujets à évoquer avec mon invité. La décision de la BCE hier, l'eau était 10 ans à 4%, les droits de douane, les discussions budgétaires. On va poser toutes ces questions à Emmanuel Moulin, gouverneur de la Banque de France, qui est dans le grand entretien. À tout de suite.
Good morning business, le grand entretien.
Le grand entretien ce matin, je reçois Emmanuel Moulin. Bonjour Emmanuel Moulin,
bonjour,
gouverneur de la Banque de France dans la matinale de l'économie. Alors j'ai plein de sujets à discuter avec vous en 9 minutes. On va essayer d'être clair et d'être concis. On commence par la réunion de la BCE hier. La BCE qui a maintenu ses taux inchangés. C'est pas une surprise. Christine Lagarde a commencé à dire qu'il y avait certains gouverneurs qui parlaient de hausse de taux. On parlait ce matin en réalité de ce numéro d'équilibriste incroyable que doit jouer en ce moment la BCE et toutes les grandes banques comme celle-là dans un monde si déséquilibré.
Oui, c'est un monde où les choses évoluent au jour le jour, évidemment, et nous avons décidé de maintenir nos taux directeurs, nos principaux taux directeurs. Pourquoi ? Parce que au mois de juin, nous avions augmenté nos taux. Nous étions passés de 2 à 2,25. C'était une décision qui était prise pour faire face à la poussée de l'inflation, et en particulier à l'inflation énergétique, et pour éviter que celle-ci se propage à l'ensemble du panier de consommation, au prix alimentaire, au prix des services. Et donc, nous avions pris cette décision. Et puis, au cours du mois de juin, il y a eu un cessez-le-feu, une baisse du prix du pétrole, très rapide, une sorte de contre-choc pétrolier. On a vu l'inflation qui a légèrement diminué, notamment au mois de juin dans la zone euro, et donc c'était plutôt des bonnes nouvelles. Et puis le conflit est reparti, et donc nous sommes un petit peu revenus finalement à la situation de juin, et donc la hausse des taux que nous avions faite au mois de juin se justifiait pleinement, et c'est pour ça que nous avons décidé de maintenir nos taux cette semaine.
Vous parliez de l'énergie, Christine Lagarde s'est dit inquiète hier de l'ouverture d'un deuxième front au Moyen-Orient entre l'Arabie Saoudite et les rebelles houthis destinés à bloquer le passage des hydrocarbures. Ça se ressent évidemment tout de suite sur le baril de pétrole qui dépasse les 100 $. Est-ce que ça vous inquiète ? Est-ce qu'on peut aller vers une sorte de crise comme celle de 2022 ?
Ben c'est une crise, effectivement, c'est inquiétant, puisque les routes du pétrole s'étaient détournées effectivement vers le golfe Persique, et donc et vers aussi le canal de Suez, qui permet à l'Arabie Saoudite d'évacuer son pétrole et d'exporter son pétrole. Et donc, évidemment, s'il y a plus de tensions, il y a plus de risques sur le prix du pétrole, on l'a vu, puisqu'il est monté autour de 100 $. Donc, c'est une situation que nous regardons, que nous surveillons avec beaucoup d'attention. Et effectivement, le risque, c'est que cette augmentation du prix du pétrole se traduise sur les autres prix, notamment sur les prix des services, sur les prix des transports. Et c'est ça que nous voulons éviter. C'est une diffusion trop large de cette inflation énergétique. Et donc, on va regarder la l'ampleur du choc et sa persistance, surtout.
Ce qui nous inquiète aussi, et on en a parlé beaucoup cette semaine, c'est l'OAT, le taux d'emprunt des États à 10 ans, qui a brièvement franchi les 4%. Est-ce que ces 4%, c'est une ligne rouge, d'après vous ?
Non, ce n'est pas une ligne rouge, mais effectivement, on constate une hausse générale, d'ailleurs, des taux longs. C'est lié aux perspectives d'inflation et puis aux incertitudes qui existent dans le monde d'aujourd'hui. Il n'y a pas un seuil à partir duquel ça crée une difficulté. C'est plutôt la tendance. Et effectivement, la hausse des taux, elle pèse sur la charge d'intérêt et donc elle réduit les marges de manœuvre budgétaires. C'est pour ça qu'il est absolument nécessaire d'avoir une stratégie crédible de réduction des déficits et de réduction de la dette.
Justement, vous dites que les autres pays sont concernés, mais nous sommes en négociation de budget, en instabilité politique, en année présidentielle, avec des très grands chantiers, vous l'avez dit, la transition écologique, l'intelligence artificielle, le quantique. Comment on fait pour résoudre cette équation qui paraît comme ça, dite comme ça, presque impossible ?
Alors, l'instabilité politique, c'est pas une caractéristique uniquement française. Ça existe dans d'autres pays européens. Pourtant, ils arrivent à trouver des consensus. On l'a vu en Allemagne avec un accord entre la droite et la gauche pour notamment réformer les retraites. Et donc, il y a certainement une voie, si on regarde nos partenaires européens, pour trouver des accords. Et de toute façon, il y aura un grand rendez-vous démocratique l'année prochaine.
Oui.
Et donc, entre-temps, il est très important, comme l'a dit le Premier ministre, d'avoir un budget. Parce qu'on ne peut pas fonctionner sans budget pendant tout un semestre en 2027.
Quel regard portez-vous aujourd'hui sur l'économie française dans ce contexte ? Est-ce qu'il y a des secteurs que vous surveillez particulièrement ? On sort d'une période de 2 mois de canicule avec 3 épisodes très importants. Les entreprises ont été très résilientes, elles ont continué à produire dans ces circonstances. Quel est votre regard là-dessus ?
Alors, nous avons constaté une bonne résilience de l'économie française. Notamment au moment de la canicule, avec des entreprises qui ont changé leur organisation pour s'adapter à la canicule. Et donc, nous avons eu des enquêtes, notamment des enquêtes mensuelles de conjoncture, qui étaient un peu meilleures que ce qu'on avait envisagé, en particulier au mois de juin et pour les prévisions du mois de juillet. On va voir comment ça se traduit sur la croissance au deuxième trimestre. On aura les chiffres le 30 juillet. Nous, on estime que la croissance pourrait être à 0,2, alors que il y a quelques semaines, on était plutôt plus pessimiste. Donc, une bonne résilience de l'économie française, mais évidemment dans un environnement qui est extrêmement volatile, avec une augmentation du prix de l'énergie, avec de nouveau des tarifs. Alors, pour l'Europe...
Les droits de douane, les droits de douane, vous parlez ?
Je pense aux droits de douane. Évidemment, pour les droits de douane... Alors, pour l'Europe, ça ne va pas changer grand-chose, parce qu'on a l'accord de Thornberry, et qui, normalement, devrait être respecté par Donald Trump. Mais évidemment, ça crée encore de l'incertitude sur le commerce mondial. Et ce n'est pas favorable, évidemment, à la croissance.
Rappelez-nous votre rôle à vous, parce que là, on parle beaucoup de la BCE. On le dit, hein, c'est un monde globalisé. Donc, évidemment, il faut regarder un peu tout ce qui se passe partout dans le monde. Votre rôle à vous, dans ce contexte, la Banque de France, dans des circonstances effectivement aussi volatiles, justement.
Alors, notre rôle à nous, il est triple. Nous avons d'abord, nous participons évidemment à la décision sur la politique monétaire. Je suis membre du Conseil général de la Banque Centrale Européenne. C'est ce que nous avons fait hier. Deuxièmement, nous sommes en charge de la stabilité financière et en particulier de la résilience des banques et des assurances. Je peux vous rassurer de ce point de vue-là, elles sont bien capitalisées et elles sont très solides.
Les résultats sont bons. Hein ?
Les résultats sont très bons. Et troisièmement, nous sommes au service des citoyens et des entreprises. Nous accompagnons les entreprises dans leur stratégie financière. Nous les notons, nous les cotons, on dit, c'est la cotation des entreprises. Et puis nous aidons nos concitoyens, notamment quand ils font face à des difficultés financières. Nous gérons les procédures de surendettement pour le compte de l'État, le droit au compte aussi quand nos concitoyens ne trouvent pas de banque. Et donc nous les aidons à en trouver une. Et donc ça, c'est une mission qui est très importante et qui s'exerce sur tout le territoire grâce aux implantations de la Banque de France.
Sur cette fin s'endetter pour ceux qui veulent acheter dans l'immobilier. Comment pensez-vous que les banques vont se comporter? Jusqu'à maintenant, il y avait encore des offres intéressantes sur les taux notamment. Est-ce que ça va continuer à la rentrée des conditions qui peuvent permettre d'acheter un appartement?
Alors, c'est les banques qui, c'est plutôt les banquiers qui pourront vous répondre. Mais ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que il y a à peu près une bonne dynamique du crédit immobilier. Il n'y a pas de contrainte, je dirais, sur le crédit immobilier. Les taux restent à des niveaux raisonnables. Et puis, il y a des offres des banques qui demeurent. Donc, il n'y a pas de restriction, je dirais, sur le crédit immobilier. Il y a plus un sujet de demande, d'ailleurs, qu'un sujet d'offre.
J'ai une toute dernière question concernant l'euro numérique qui est enfin lancé. J'aimerais savoir ce que vous en pensez et si vous pouvez nous dire à quoi il va servir pour nous, peuple français, qui est déjà extrêmement bien servi en matière de services bancaires, plus que d'autres pays en Europe d'ailleurs.
Non, c'est vrai. Mais ce que nous constatons, c'est que on utilise de moins en moins les billets. Alors, ça restera une forme de monnaie qui sera disponible. Hein. On a hier dévoilé un projet de nouveau design des billets en euros. Mais vous pouvez pas payer sur Internet avec un billet. Ce que nous voulons faire, c'est adapter la monnaie fiduciaire au monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un monde qui est numérique. Et c'est ça, l'euro numérique, c'est une sorte de billet numérique que vous pourrez utiliser, comme vous utilisez un billet pour acheter votre pain, vous pourrez utiliser l'euro numérique pour payer sur Internet ou pour régler des achats chez les commerçants.
Merci Emmanuel Moulin d'être venu ce matin, gouverneur de la Banque de France, dans la matinale de l'économie. Les droits de douane, on va en reparler. L'amende infligée aussi à Google dans ce contexte, on va en reparler. C'est dans le journal de 8h. Restez avec nous.
BFM Business et RMC Live présentent la matinale de l'économie. Good morning business. Sandra Gandoin.
Presque 8h, bienvenue dans la matinale de l'économie. Si vous nous rejoignez, nous sommes ensemble en direct jusqu'à 9h sur BFM Business. Donald Trump sort donc à nouveau sa carte droit de douane sur une soixantaine de partenaires commerciaux entrés en vigueur cette nuit. L'Europe est concernée, mais se veut rassurante. On va en parler avec notre correspondant à Bruxelles dans un instant. Et c'est dans ce contexte que l'Europe vient d'infliger à Google la plus lourde sanction jamais donnée, 900 millions d'euros pour non-respect du règlement européen sur les marchés numériques. Les explications à venir de Noah Domain. Les autres titres ce matin, Léo Dumas.
Le feu vert des banques pour le plan de Daniel Kretinsky chez Casino. Un nouveau profit warning ce matin chez Volkswagen et puis le démarrage record pour l'Odyssée qui propulse Montpellier comme capitale du cinéma.
Dans la prochaine heure, c'est l'une de nos pépites de la réalité augmentée. Engo Eyewear équipe les coureurs et les sportifs français mais aussi américains de lunettes connectées. Elle vient de lever 5 millions d'euros pour se développer. On va en parler dans la French Tech avec son directeur général à 8h15. Et puis deux invités qui viendront nous parler de leurs résultats. Valeo, l'équipementier automobile qui organise sa diversification. Christophe Pégas sera avec moi à 8h20. Et BNP Paribas qui affiche des résultats solides malgré un contexte économique et géopolitique très tendu. Thierry Laborde sera avec nous sur ce plateau à 8h35. La matinale de l'économie, ça continue. Soyez les bienvenus.
Good morning business, le journal.
Et cette confirmation cette nuit, Léo, sur les nouveaux droits de douane américains.
Ils sont déjà entrés en vigueur il y a pile 2 heures. Quand il était minuit à Washington, ils visent cette fois les 60 principaux partenaires commerciaux des États-Unis. Chacune de leurs exportations est surtaxée entre 10 et 12,5% au motif cette fois de la lutte contre l'esclavage moderne. C'est ce qui est écrit dans le communiqué de l'administration Trump, un prétexte contesté par plusieurs économies depuis des semaines déjà, dont l'Union européenne, qui s'était quand même préparé à cette annonce. Alors, on vous rejoint à Bruxelles, Pierre Benazet pour BFM Business. Quel est l'état d'esprit de la Commission ce matin?
La Commission européenne se veut rassurante. Elle estime que les États-Unis n'ont pas de raison de remettre en cause la trêve commerciale signée à Turnberry le 27 juillet de l'an dernier et entrée en vigueur le 1er juillet dernier. Cet accord qui limite à 15% les droits de douane. Elle estime aussi qu'avec les contacts qui ont été pris avec l'administration Trump ces derniers temps, les médicaments génériques européens seraient épargnés par les nouveaux droits de douane dont menace la Maison-Blanche. Bref, c'était plutôt un discours rassurant de la part de de la Commission, même si une certaine inquiétude s'est fait jour ici après l'amende de 890 millions d'euros décidée ce jeudi à l'encontre de Google. Une amende qui a suscité des commentaires acerbes de la part de Jamieson Greer, le représentant américain au commerce, qui estime qu'elle sape la stabilité et la prévisibilité des relations commerciales entre les États-Unis et l'Union européenne.
Merci Pierre Benazet à Bruxelles, où effectivement cette amende annoncée hier contre Google est complètement inédite. Presque 1 milliard d'euros pour là des manquements aux règles de concurrence que nous explique Noah Domain.
890 millions d'euros, c'est la plus lourde sanction jamais infligée au titre du DMA, dont est comme Google, pour non-respect du règlement européen sur les marchés numériques. Dans le détail, 460 millions d'euros lui sont infligés pour avoir favorisé ses propres services dans les résultats de son moteur de recherche, au détriment de ceux de ses concurrents. S'y ajoutent 430 millions d'euros pour avoir empêché les développeurs d'applications de rediriger les utilisateurs vers des offres moins chères, en dehors de son magasin d'applications Play Store. Selon Bruxelles, cette décision est essentielle pour garantir des conditions de concurrence équitables entre toutes les entreprises du numérique. Cette sanction risque d'alimenter la colère de Washington. L'administration Trump accuse Bruxelles de cibler injustement les champions américains de la tech. 25 parlementaires ont écrit à Donald Trump pour lui demander d'agir en représailles contre l'Union européenne si elle persistait à exercer des lois, des politiques ou des pratiques discriminatoires dans le secteur numérique. Google dispose désormais de 60 jours pour se mettre en conformité avec le DMA, sous peine de nouvelles sanctions financières.
Le dossier Casino Léo est le feu vert des banques pour le plan de restructuration financière.
Oui, elles donnent leur accord de principe aux conditions posées par le conseil d'administration sur la restructuration de la dette du groupe. Et alors Nathan Cocampo, c'est là une victoire pour l'instant pour le principal actionnaire Daniel Kretinsky.
Oui Léo, le milliardaire tchèque fait l'objet depuis novembre d'un bras de fer avec une partie de ses créanciers. Pour rappel, sur la table, une importante réduction de la dette. Casino doit rembourser 1,4 milliard d'euros d'ici mars prochain. Le plan de Daniel Kretinsky vise à convertir une partie de cette dette en actions, environ 650 millions d'euros, avec en parallèle un apport de capital d'environ 600 millions d'euros d'argent frais. Donc, 9 fonds s'y opposent. Alors, Daniel Kretinsky a demandé aux banques de revoir leurs garanties pour réduire leur capacité à bloquer cette restructuration. Les 6 banques françaises acceptent donc les conditions validées par le conseil d'administration le 10 juillet.
Dans le détail, les banques valident 2 points essentiels, Nathan.
L'accord prévoit que les créanciers TLB, donc les investisseurs ayant prêté de l'argent au groupe via des prêts à long terme, et donc de nouvelles garanties financières. Les banques acceptent de partager leur paquet de sûreté avec ces créanciers. L'autre point est plus stratégique. Les banques lèvent aussi la condition suspensive. Elles acceptent de maintenir leur financement, même si les 2/3 des créanciers TLB n'approuvent pas le plan. Autrement dit, Daniel Kretinsky peut poursuivre la restructuration du groupe sans être bloqué par une minorité de créanciers. Mais le bras de fer se poursuit et c'est maintenant à la justice de valider ou non ce plan de sauvegarde. Une décision défavorable remettrait en cause la restructuration voulue par Kretinsky et ferait peser un risque majeur sur Casino à l'approche de l'échéance de la dette.
Merci Nathan. Ce nouveau rebondissement dans le dossier BHV Léo.
Oui, le magasin parisien serait en cessation de paiement. C'est la suspicion en tout cas de l'inspection du travail qui l'a signalé à la justice française. Alors que l'enseigne a été accusée de nombreuses fois de ne plus payer ses fournisseurs, la nouvelle direction se dit prête à prouver le contraire devant la justice et elle assure que 80% de sa dette a d'ores et déjà été restructurée ces dernières semaines. 8h05, on vient d'avoir la publication de Volkswagen. Etienne Braque nous rejoint car il y a encore un profit warning pour le constructeur allemand.
Le constructeur qui ne voit vraiment pas le bout du tunnel, qui annonce ce matin revoir encore une fois à la baisse ses ventes pour 2026. Il avait dit en début d'année, on va faire jusqu'à 3% de croissance cette année. Finalement, la croissance sera entre 0 et moins 3. Donc, c'est quand même un profit warning assez important. Volkswagen met en avant les droits de douane américains. Hein, malheureusement, visiblement, l'effet est toujours là. Et puis, surtout, le marché chinois qui est difficile. Il faut voir que ces dernières années, le marché chinois était très important pour Volkswagen comme pour l'ensemble des constructeurs automobiles parce que c'était un boulevard de croissance. Et puis, surtout, il y avait des marges importantes. Oui, mais le problème, c'est que maintenant, vous avez des constructeurs chinois qui montent en gamme. Et donc, le Chinois aujourd'hui n'achète plus de voitures allemandes, il achète des voitures chinoises, meilleur rapport qualité-prix. Et puis surtout, il y a beaucoup de souveraineté en ce moment en Chine. On le voit d'ailleurs avec le luxe. Et d'ailleurs, ça sera intéressant de décrypter la semaine prochaine les publications de Kering ou encore de LVMH et de Hermès. Le titre est attendu en baisse tout à l'heure à Francfort. On est sur un repli de quasiment 3%, sachant que le titre perd désormais 30% depuis le début de l'année, moins 65% en l'espace de 5 ans. Pour rappel, Bloomberg avait dit début juillet que le groupe envisageait quasiment 100 000 suppression suppressions de postes. En tout cas, déjà 50 000 suppressions de postes sont actées. Les effectifs frôlent les 700 000 à fin décembre 2025.
Merci beaucoup, Étienne. On en parlera avec Christophe Périlla, directeur général de Valeo, tout à l'heure. Déjà près de 2 millions d'entrées en France après une semaine pour l'Odyssée de Christopher Nolan, Léo.
Oui, le premier film intégralement tourné dans le format IMAX qui signe le meilleur démarrage de l'année en France. Et alors, ça profite logiquement aux salles IMAX, à commencer par celle du Pathé Odysseum à Montpellier, Lynn Lefaou.
Ulysse a bien mis 10 ans pour retrouver son chemin jusqu'à Ithaca, alors prendre un train de quelques heures pour le voir dans les meilleures conditions possibles semble indispensable pour bon nombre de cinéphiles. Plus 31% de réservations de train vers Montpellier pour la première semaine d'exploitation du film par rapport à la même période l'an dernier, plus 85% depuis Paris, plus 26% depuis Lyon selon les derniers chiffres de Trendline. Depuis le 15 juillet, Montpellier s'impose donc comme la capitale du cinéma. Il faut dire que son Pathé Odysseum dispose de la seule salle en France et l'une des trois en Europe avec Bruxelles et Prague à pouvoir diffuser le blockbuster de Christopher Nolan dans le format souhaité par le réalisateur. Avec l'IMAX 70 mm, fini les bandes noires, son écran immense permet une diffusion du film avec une qualité inégalée dans un format immersif qui semble donc justifier les 30 euros d'entrée selon les premiers retours et qui semble donc aussi justifier un aller-retour vers Montpellier, hôtel parfois en prime. Même constat d'attractivité dans les 40 autres salles IMAX 70 mm existantes dans le monde. Elles ont déjà réalisé plus de 6 millions de dollars de recettes. Les séances à Montpellier sont quasi pleines jusqu'à la mi-août.
8h08, les marchés. En moins d'une heure de l'ouverture, on est dans le rouge, Étienne.
Très légère baisse de 0,2% pré-ouverture pour le CAC 40. Il faut voir que c'était une séance difficile hier à Wall Street. Le Nasdaq a perdu plus de 2% avec Alphabet, la maison mère de Google, qui a perdu 7% après ses résultats. Ils étaient largement au-delà des attentes, mais le groupe va dépenser plus d'argent qu'anticipé dans l'intelligence artificielle. Moins 14 pour Tesla. Ça montre quand même que cette saison de résultats amène son lot de volatilité. À suivre donc tout à l'heure Volkswagen qui fait un profit warning ce matin. Hier, c'était compliqué pour Nestlé. Moins 7. Ça montre quand même que cette saison de résultats semestriel est pour l'instant difficile. Du côté de la Bourse de Paris, à 9h, à suivre Carrefour qui a publié hier des résultats en ligne avec les attentes. Le groupe qui a notamment profité de la canicule avec beaucoup de ventes de glace visiblement à la fin du mois de juin et puis surtout des climatiseurs et des télévisions avec le mondial de football.
200 000 climatiseurs, c'est ça?
Oui, en
merci,
un mois.
Merci Étienne, on se retrouve tout à l'heure pour l'interview de Thierry Laborde également, ce sera à 8h35. Culturia, tout de suite.
Good morning business. Culturia.
Léa Benaïm, on va un peu dans la dystopie ce matin, quoique le PDG d'une entreprise pourrait ne plus être humain, mais une intelligence artificielle. Une start-up canadienne ambitionne de racheter une entreprise juste pour tenter cette expérience.
Oui, c'est le défi un peu fou que s'est lancé Skyfall AI. C'est une start-up fondée par deux anciens responsables de l'IA chez Microsoft. Acheter une entreprise dans le logiciel pour un montant maximum $1 million, histoire de pas trop dépenser d'argent si l'expérience ne fonctionne pas, puis en confier les rênes à une intelligence artificielle. Et ils promettent, Sandra, de doubler le chiffre d'affaires en seulement 6 mois, mais surtout de répondre à cette fameuse question: comment se porterait une entreprise si toutes les décisions étaient prises par une IA? D'ailleurs, si votre entreprise correspond aux critères et que l'expérience vous tente, ça se passe en ce moment même, vous pouvez postuler directement sur leur site. Et le plus surprenant, en fait, c'est la manière dont ils ont testé cette IA. Elle a été entraînée avec un jeu vidéo, Roller Coaster Tycoon. C'est un jeu de simulation où, en fait, on doit gérer un parc d'attractions de A à Z dans le but de ne pas faire faillite. Une bonne formation, visiblement. Et surtout, Skyfall AI s'est engagé à tout raconter sur leur blog une fois l'expérimentation terminée. On va donc, Sandra, pouvoir suivre en détail le premier mandat d'un PDG artificiel.
Alors, c'est pas la première fois qu'on confie une entreprise à une intelligence artificielle, sauf qu'ici, les résultats n'ont pas toujours été convaincants.
Et non, en avril dernier, une IA avait été nommée directrice d'un café à Stockholm. Sauf que l'expérience n'est pas ce qu'on peut appeler un succès. Pour cause, Mona, c'est le nom de l'IA, a accumulé les erreurs. Elle a par exemple commandé 6000 serviettes et 3000 gants en caoutchouc, alors qu'il s'agit d'un tout petit café, de quoi tenir un siège de plusieurs années. Et même, ça c'est ma préférée, des centaines de boîtes de tomates en conserve, alors qu'aucun plat à base de tomates n'est proposé sur la carte. Résultat, en seulement un mois, Mona avait dépensé la quasi-totalité totalité de son budget de départ. Et elle a aussi montré des grosses lacunes de management. Elle s'est mise à envoyer des messages aux salariés en dehors de leurs heures de travail, parfois même en pleine nuit. Un comportement qui, vous vous en doutez, n'est pas vraiment apprécié. Et le café n'était pas le premier essai. La même entreprise a également ouvert une boutique à San Francisco, elle aussi pilotée par l'IA. Mais cette fois, les dégâts sont clairement moins spectaculaires, même si le jour de l'inauguration, l'IA avait oublié de prévenir les salariés qui n'ont donc pas ouvert les portes à l'heure. Alors.
Il y a encore pas mal d'hallucinations en effet, puis ça se voit réellement. Après, ça a des vraies conséquences sur la gestion d'une boîte. Et pourtant, dans la Silicon Valley, certains patrons rêvent déjà d'avoir une IA pour déléguer une partie de leur travail.
Oui, c'est le cas de Mark Zuckerberg. Selon plusieurs médias américains, le patron de Meta travaillerait sur un projet très ambitieux, créer un clone numérique de lui-même, une IA entraînée sur sa façon de parler, de raisonner avec son caractère, ses qualités comme ses défauts. L'objectif, en revanche, n'est pas aussi extrême, il ne veut pas être remplacé, mais seulement assurer une partie de ses fonctions de PDG, celle qu'il aime le moins finalement, comme assister à des réunions, répondre aux mails, échanger avec ses salariés.
Sympa.
Mais surtout, cette IA pourrait lui permettre de continuer de travailler lorsqu'il dort ou il est en vacances. Mmh. En tout cas, on voit bien que dans la Silicon Valley, la question n'est plus vraiment de savoir si les dirigeants vont utiliser une IA, mais jusqu'où ils accepteront de déléguer le pouvoir. Et c'est justement ce que l'expérience de Skyfall va nous apprendre.
Je ne suis pas sûre que ce soit très rassurant tout ça. Merci beaucoup Léa, la French Tech tout de suite.
Good morning business, French Tech.
La French Tech ce matin, c'est Éric Marcelin Dibon, directeur général de Engo Eyewear. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur ce plateau. Marc grenobloise de lunettes connectées pour les coureurs et sportifs de façon plus générale. 15 000 utilisateurs dans le monde. Expliquez-nous comment elles fonctionnent. Quelle est votre technologie dans ces lunettes connectées avec de la réalité augmentée?
Alors, c'est très simple. En fait, les lunettes se connectent à votre montre ou à votre téléphone qui va apporter les données de course, par exemple votre vitesse, vos rythmes cardiaques, etc. Et vous allez voir ça en transparence dans vos lunettes pendant que vous courez. Donc ça vous permet d'ajuster votre sport à votre rythme.
Elles sont fabriquées en France?
Elles sont fabriquées en France, à Grenoble, oui.
100% français, Léa Benaïm.
Quand on les voit, pour ceux qui sont avec nous en télévision, elles font un peu penser aux eaux-clés de Meta. Sauf que vous, à la différence, c'est pas, il n'y a pas d'IA, il n'y a pas de... si, je crois qu'on peut écouter de la musique quand même, il y a des haut-parleurs.
Non.
Mais il n'y a pas un petit peu toutes ces fonctions un peu fancy. Vous êtes vraiment resté sur des lunettes pour les sportifs. Vous ne voulez pas toucher justement un public un peu plus large?
Alors, c'est un petit peu différent, je dirais. Nous, ce que l'on sait faire, c'est des lunettes qui sont très efficaces. En fait, la technologie permet de consommer très peu d'énergie. Et donc, on arrive à faire des lunettes très légères qui vous apportent vraiment en direct vos données. Alors que les lunettes de haut-clé, si vous voulez, elles ont une caméra, elles ont de l'audio, c'est pas vraiment le même cas d'usage. Vous n'avez pas d'affichage dans les lunettes de haut-clé. Donc là, on est vraiment focalisé sur l'expérience utilisateur du sportif. C'est-à-dire que vous allez vous améliorer, que vous soyez un sportif débutant ou un sportif confirmé. Voilà, on va aider le sportif à s'améliorer dans sa façon de faire du sport.
Dans sa pratique. Vous venez de lever 5 millions d'euros. Déjà, qui sont vos investisseurs?
Alors, nos investisseurs sont français. Il s'agit de Ventech, le groupe français qui investit dans différentes technologies, BPI France et Odyssée Partners.
Alors, le but de ces 5 millions, ça va être quoi au final?
En fait, on a deux axes. Un axe, c'est bien sûr de prendre le territoire du sport. Aujourd'hui, on est pratiquement les seuls en dehors de haut-clé sur ce domaine-là, mais vraiment focalisé sur l'expérience utilisateur pour le sportif. Donc ça, c'est un développement sur le côté marketing. Et l'autre développement est vraiment sur la roadmap technologique. Comme je vous disais tout à l'heure, nous, ce qui fait notre différence, c'est qu'on arrive à faire des lunettes qui consomment 10 fois moins d'énergie par rapport au Ray-Ban Meta ou au clé. Donc, on arrive à faire des choses très, très légères. Vous voyez, il n'y a pas de technologie dans les branches. Et donc, on se focalise toujours sur miniaturiser toute la partie technique pour qu'elle devienne invisible à la fin.
Léa. Aujourd'hui, vous avez un affichage tête haute dans les lunettes, je crois. Donc, c'est pas vraiment de la réalité virtuelle. Est-ce que ça pourrait être une prochaine étape? C'est quoi les prochaines technologies que vous voulez intégrer dans vos lunettes?
Alors, réalité virtuelle, pour moi, vous allez voir un champ vue très large et vous êtes en immersif. Là, dans le sport, vous n'avez pas envie d'être en immersif. Vous voulez pratiquer votre sport, vous voulez voir le paysage, etc., etc. Donc, vous voulez avoir vos données dans un petit champ de vue qui est facilement accessible, mais qui ne vous met pas dans un domaine complètement immersif. Donc, je pense pas qu'on va y mettre de la réalité virtuelle là-dedans. On va vraiment rester sur de l'affichage, quelque chose qui va vous aider. Mais ça va aussi se déplacer vers le grand public, parce qu'on démarre par le sport, le fitness, la navigation, puis demain, vous aurez vos notifications, etc. Donc, typiquement, c'est le produit, l'accessoire qui va se combiner avec votre montre, avec votre téléphone, qui va vous apporter des informations contextuelles, mais pas vous mettre dans un monde complètement virtuel.
Ce qui est intéressant, c'est que vous êtes très présent à l'étranger. 90% de votre activité, de votre chiffre d'affaires se fait à l'étranger, notamment aux États-Unis.
Ouais. Tout à fait. Enfin, quand on démarre un produit grand public, il faut avoir
un très gros marché,
la stratégie internationale d'entrée de jeu. Donc nous, d'entrée de jeu, on a démarré sur les États-Unis, sur l'Europe.
L'Asie, ça va être le prochain.
L'Asie, ouais. On ouvrira l'Asie un peu plus tard. Mais aujourd'hui, oui, les États-Unis est notre premier marché. Et puis après, les gros pays européens.
La suite, c'est aussi l'embauche de 20 personnes pour continuer justement à affiner ce produit. C'est ça aussi le projet ?
Oui, tout à fait. On va agrandir l'équipe, bien sûr, sur la partie, encore une fois, technologique, mais sur aussi la partie développement de marché. Donc, c'est vraiment les deux axes principaux de développement que l'on a. Oui.
Merci beaucoup, Éric Marcelin-Dibon, d'être venu ce matin nous voir dans la matinale de l'économie, directeur général et cofondateur d'Engo Eyewear. Dans un instant, les résultats de Valeo, la diversification aussi de l'entreprise à l'heure où l'automobile européenne peine énormément. On l'a vu tout à l'heure avec Volkswagen. À tout de suite.
Good morning business. Parole de patron.
Christophe Perry est avec moi ce matin, directeur général de Valeo. Bonjour.
Bonjour.
Valeo, équipementier auto, mais pas que. On va le voir, on va parler de diversification dans un instant. D'abord, vos résultats du premier semestre. Résultats solides, supérieurs aux attentes. Un bénéfice net part du groupe de 105 millions d'euros en croissance de 1%. Une marge opérationnelle de 514 millions d'euros en hausse de 8%. Et vous réaffirmez vos objectifs pour 2026.
Exactement, ce sont des résultats solides sur notre cœur de métier qui est l'automobile. Vous avez une profitabilité qui est en hausse, vous avez une génération de cash qui est en hausse, vous avez une dette qui est en baisse, des bonnes prises de commandes, ce qui est également très important pour le futur. Oui, donc ça va bien, ça va mieux, on progresse de semestre en semestre et on a été en situation de confirmer tous nos objectifs de l'année 2026, ce qui est dans le contexte difficile pour l'automobile, une performance, je pense, exceptionnelle.
Quel marché vous porte en ce moment sur cette année 2026, Christophe Perria ?
En fait, ce sont plus les technologies qui nous portent que les marchés. Voilà, oui. La voiture, il faut bien comprendre qu'elle change complètement. Elle devient électrifiée, elle devient de plus en plus autonome, elle devient de plus en plus logicielle. Et c'est vraiment les technologies sur lesquelles Valeo a décidé, depuis nombreuses années maintenant, de se positionner. Et on est au moment où ces transformations, elles commencent à se voir dans les chiffres, dans les nouvelles voitures qui sortent, et c'est ça qui nous porte pour les années qui viennent.
La difficulté, c'est effectivement qu'on est dans une période de transition, et elle dure, cette période de transition. On voit que l'automobile souffre en Europe. On vient de voir le profit warning de Volkswagen, qui revoit ses ventes à la baisse pour 2026, qui parle d'un marché chinois difficile. Toutes les marques, finalement, souffrent chacune à leur tour, et il faut penser, dites-vous, d'autres relais de croissance. Sur quoi spécifiquement vous travaillez avant de parler effectivement des autres secteurs que l'automobile en fait ?
Sur quoi on travaille en dehors de l'automobile ?
Non, sur l'automobile précisément là actuellement.
Alors, vous avez parlé de la Chine, c'est important parce qu'effectivement, certains de nos clients globaux ont des difficultés en Chine. Vous avez une offensive chinoise qui est quand même très, très forte avec de nouvelles marques, avec de nouvelles voitures.
Oui.
Si vous êtes attentive aux prises de commandes que nous avons eues en Chine au premier semestre, avec les constructeurs chinois, c'est 5 fois nos ventes. Donc on a un momentum qui est très très fort avec les constructeurs chinois en particulier, ce qui est important parce que le marché étant relativement stable globalement dans le monde, il faut se mettre dans la roue des clients qui, aujourd'hui, voient leurs ventes augmenter. Et aujourd'hui, ce sont les constructeurs chinois.
L'Inde aussi, vous regardez du côté de l'Inde ?
Alors, on regarde beaucoup l'Inde. On va y tripler nos ventes dans les 2 années qui viennent. Je dis quelquefois que c'est le moment de l'automobile en Inde, mais c'est aussi le moment de Valeo en Inde. C'est-à-dire que les voitures étaient assez basiques, historiquement, en Inde. Mais vous avez l'émergence d'une classe moyenne qui est là et qui a soif d'une mobilité plus sophistiquée, de voitures plus sophistiquées. C'est-à-dire que les technologies de vélo qui n'étaient pas forcément très pertinentes en Inde parce que les voitures étaient assez basiques, ces technologies, elles sont aujourd'hui très pertinentes en Inde et c'est ce qui nous permet d'imaginer de tripler nos ventes en Inde dans les deux ans qui viennent. On va passer de 200 millions de ventes à 700 millions de ventes en 2028.
Vous parliez tout à l'heure de technologie, l'électrification, l'aide à la conduite, la voiture autonome. Est-ce que l'Europe est prête à la voiture autonome ? On parle beaucoup de ça aux États-Unis depuis plusieurs années. Est-ce que nous, on prend cette voie-là aussi ?
Alors, je vous fais une annonce importante, parce que vous savez qu'on travaille sur ce concept, sur la voiture autonome depuis de nombreuses années. Oui. On est numéro un mondial des capteurs, les yeux, les oreilles des voitures, des logiciels, on fait des gros calculateurs qui rentrent dans ces véhicules autonomes. Le véhicule autonome, il arrive, voilà. Il a souvent été annoncé, et puis on ne l'a pas vu. Là, je pense qu'il arrive, et il arrive pour une raison qui est assez simple, qui est que la dernière brique technologique qui permet à la voiture autonome de devenir vraiment performante, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de surveiller la voiture, c'est la vraie autonomie avec une performance pas seulement sur certaines routes, mais sur toutes les routes. Elle arrive parce que l'intelligence artificielle permet de le faire. C'est ça la dernière brique technologique qui permet de le faire.
Comme toute technologie qui arrive en Europe, on a toujours un moment où la réglementation s'installe dans le process. Oui. Est-ce que vous avez peur d'être un peu freiné à ce niveau-là sur la conduite autonome par les réglementations européennes à venir ?
C'est normal qu'il y ait des réglementations. Une voiture, c'est 1,5 tonne d'acier. Voilà. 1,5 tonne d'acier qui roule à 30 km/h ou 50 km/h en ville ou 130 km/h sur autoroute. C'est évidemment absolument normal, absolument sain que les pouvoirs publics s'y intéressent. Donc c'est normal qu'il y ait une réglementation.
C'est très important. Et c'est pris en compte dans vos délais ?
Oui, bien sûr. Mais encore une fois, si vous regardez sur 10 ans, sur 15 ans, la voiture autonome, elle arrive parce que la voiture, grâce à l'IA aujourd'hui, au lieu de, on va dire, de reproduire ce qu'elle a appris, ce qu'on a codé, ce qu'on a spécifié, et on n'arrive jamais à tout coder, à tout spécifier, elle apprend véritablement à conduire. Elle apprend à conduire. Et ça change tout technologiquement. Et ça me permet de dire que, enfin, oui, cette voiture autonome, je la vois arriver.
On parlait d'automobile et des difficultés de façon générale en Europe. Cela vous pousse, cela pousse les entreprises à se diversifier, j'ai plus de souffle, dans la défense, notamment dans les data centers. C'est ça que vous regardez très rapidement, Christophe Périllat ?
Oui, on regarde. Bon, on a un marché qui n'est plus en croissance. Le marché automobile aujourd'hui ne croît plus dans le monde. Il est à peu près stable ou même en baisse légère au premier semestre. Le raisonnement de Valeo, notre raisonnement, c'est le suivant. Qu'est-ce qui nous caractérise le mieux, Valeo ? Est-ce que c'est d'être un équipementier automobile ou est-ce que ce sont nos technologies qui nous caractérisent le mieux ? Et nos technologies, elles sont exceptionnelles. C'est l'intelligence artificielle, c'est la cybersécurité, c'est la sécurité de fonctionnement, c'est l'électronique de puissance, c'est le refroidissement. Donc, on a des technologies exceptionnelles. Et en fait, il n'y a plus de barrière entre les différents secteurs. Vous avez vu une marque de téléphone Xiaomi en Chine. Elle fait des voitures. Vous avez des fabricants de voitures qui font autre chose. Pourquoi ? Parce que quand vous supprimez le moteur à combustion d'une voiture, en fait, une voiture n'est qu'une déclinaison d'un certain nombre de technologies qui lui sont supérieures. Et ces technologies, nous les avons développées. Vous connaissez le caractère très technologique de Valeo. Donc notre raisonnement, c'est de dire, on part de ces technologies qu'on applique aujourd'hui à l'automobile, mais est-ce qu'on peut les appliquer à d'autres secteurs ? Et oui, on a identifié beaucoup d'autres secteurs qui sont très divers. C'est la petite mobilité, les deux roues, les trois roues, mais c'est aussi la défense,
les drones
en particulier, mais c'est aussi les infrastructures de data centers qui ont besoin d'être refroidies, où on a besoin de beaucoup d'électronique de puissance. Tiens, ce sont les technologies que Valeo sait maîtriser depuis de nombreuses années et sur lesquelles on a, je pense, vraiment une carte à jouer.
Quand on vous écoute, on a l'impression que ces différents rebonds, ces adaptations sont faciles. Merci beaucoup, Christophe Périllat, directeur général de Valeo, d'être venu ce matin.
Merci à vous.
Dans la matinale de l'économie. Dans un instant, on va revenir sur la décision de la BCE de laisser ses taux inchangés, au moins pour cet été. On verra ce qui va se passer en septembre. Et puis, on recevra avec Étienne Braque, Thierry Laborde, directeur général délégué de BNP Paribas dans 10 minutes. À tout de suite.
Good Morning Business, le journal.
8h, un peu plus de 8h30, les titres, Léo.
Statu quo à la BCE qui maintient une approche réunion par réunion, mais qui ouvre la voie à une hausse de taux à la rentrée. On verra le débrief d'Étienne Braque et les mots de Christine Lagarde au début de ce journal. Donald Trump veut utiliser les avoirs gelés des Iraniens pour rembourser les dégâts qu'ils causent dans le détroit d'Ormuz. Et puis la 350 d'Airbus vient de faire Toulouse-Melbourne sans escale en moins de 20 heures. Pas de surprise donc à Francfort hier, même si on n'est pas passé très loin. En tout cas, la perspective d'une hausse des taux a été évoquée. Dès cette réunion, dit Christine Lagarde, la présidente de la BCE, inquiète par la reprise du conflit au Moyen-Orient.
The risks to the inflation outlook.
Les risques pesant sur les perspectives d'inflation sont orientés à la hausse. Le choc énergétique pourrait s'aggraver encore et ses répercussions sur les autres prix et les salaires pourraient être plus importantes que ce qui est actuellement prévu. Certains gouverneurs se sont d'ailleurs demandé si nous ne pourrions pas envisager une hausse et relever les taux d'intérêt à l'occasion de cette réunion.
Alors, Étienne Braque, la BCE est décidément sur un numéro d'équilibriste.
Un numéro d'équilibriste, surtout que la dernière réunion du mois de juin s'est un petit peu retournée contre elle. Souvenez-vous, le 11 juin, la BCE relève ses taux de 25 points de base. Cette hausse de taux est effective le 17 juin. Et au même moment, vous avez Donald Trump qui annonce signer un préaccord avec l'Iran. Et là, d'un seul coup, vous avez le baril de pétrole qui passe de 90$ début juin à 75$ fin juin, début juillet. Entre-temps, fin juin, début juillet, à ce moment-là, Christine Lagarde à Sintra essaye de tempérer en disant « Non, vous inquiétez pas, on ne va pas relever les taux au mois de juillet ». Alors, elle n'a pas relevé les taux hier, mais c'est vrai que désormais, elle est très prudente pour la simple et bonne raison que le baril de pétrole est à nouveau au-delà des 100$ pour la première fois depuis le mois de mai. Un numéro d'équilibriste qui vise à dire « Ne vous inquiétez pas, je suis là, je vais combattre l'inflation si l'inflation accélère ». Et puis, dans le même temps, il ne faut pas faire la hausse de trop, hein, puisque c'est vrai que cette hausse de taux du mois de juin a certes été symbolique, mais elle peut avoir un impact, d'autant plus que le 10 ans français est au-delà des 4%. Un cap symbolique qui n'a pas été franchi depuis la crise financière de 2011.
Merci Étienne Braque, on va en reparler de ce 10 ans français, mais d'abord un petit point sur le pétrole. Effectivement, plus de 100$ ce matin pour le baril de Brent après 6% de hausse hier. Et toujours ces tensions maximales au Moyen-Orient, désormais de la mer Rouge jusqu'au détroit d'Ormuz, où là Donald Trump vient de sortir une nouvelle carte. Il prévient Téhéran cette nuit que tous les dommages causés aux navires ou aux cargaisons seront désormais remboursés par l'argent iranien gelé et détenu par les États-Unis. L'Iran répond dans la foulée que cette décision est un précédent incendiaire.
Étienne en a parlé, l'OAT à 10 ans a franchi hier le seuil des 4%, ça ne fait pas nos affaires, Léo.
Non, c'est un plus haut depuis octobre 2008, la crise financière est un cap symbolique qui met la France particulièrement sous tension à l'approche du budget, Caroline Morisseau.
Les investisseurs font monter la pression, la hausse du prix du pétrole, le risque de regain d'inflation et d'un resserrement monétaire alimentent les inquiétudes, de quoi provoquer une hausse généralisée des taux monétaires. Tous les pays sont concernés, le Bund, le taux à 10 ans allemand a lui aussi grimpé pour atteindre un plus haut depuis 15 ans. Mais la France est particulièrement sous tension, avec une dette à plus de 3 500 milliards d'euros, soit 117% du PIB. Notre charge de la dette a bondi, selon les derniers chiffres de Bercy, elle devrait déjà atteindre plus de 64 milliards d'euros cette année, soit quasiment deux fois plus qu'en 2019 avant la crise Covid. Toute hausse des taux vient encore alourdir la facture. De plus en plus de voix pressent la France d'agir avant qu'il ne soit trop tard. La semaine dernière encore, quatre économistes missionnés par Bercy évoquaient un poison lent. Reste que la difficulté à faire passer un budget à quelques mois de l'élection présidentielle risque encore d'alimenter la défiance.
Sur le budget, justement, en France, les esprits s'échauffent sur le doublement des franchises médicales.
Annoncé par le gouvernement hier pour freiner la croissance des dépenses de santé. Alors en clair, les patients vont désormais payer jusqu'à 200€ par an de leur poche sur les boîtes de médicaments et sur les consultations médicales contre 100€ maximum. Jusqu'ici, de quoi donc économiser 750 millions par an dans le budget, selon les Échos. La mutualité française estime de son côté le transfert de dépenses à 1,5 milliard d'euros vers les complémentaires, ce qui va peser sur les assurés. Dans le même temps, au Royaume-Uni, la deuxième décision budgétaire d'Andy Burnham, et c'est une nouvelle baisse de la fiscalité, cette fois pour les entreprises, puisque c'est la taxe sur les pubs, sur les boîtes de nuit et sur les salles de concert qui va baisser de 20%. Annonce faite par le Premier ministre britannique directement au comptoir d'un pub à Harlow, au nord de Londres.
Pubs need to know that
Les peuples doivent savoir que la cavalerie arrive. Pour moi, c'est notre patrimoine, c'est la culture de la classe ouvrière. Une fois que les peuples disparaissent, ils ne reviennent pas. Donc nous devons simplement indiquer quel soutien nous apporterons dès que nous pouvons. C'est pourquoi j'ai fait cette annonce précoce.
Au Royaume-Uni aussi, la clôture du salon de Farnborough, et c'est Boeing qui s'est imposé sur les commandes commerciales. 173 ont été annoncées, principalement des 737 MAX et des 787. Airbus n'est pas très loin, 154 contrats rendus publics sur des A320 et 21 Neo.
Et une bonne pub, Airbus vient de réussir son pari. Toulouse-Melbourne en moins de 20 heures et surtout sans escale.
Avec la 350 000 LR qui vient d'atterrir dans la nuit du côté de l'Australie après son premier vol d'essai ultra longue distance, c'est un avion sur mesure pour le projet Sunrise lancé il y a près de 10 ans par la compagnie australienne Qantas et qui est donc en train de se concrétiser. Nathan Cocampo.
Près de 70 000 passionnés se sont connectés à Flight Radar pour suivre le trajet de cet A350 révolutionnaire. Un record d'audience, il faut dire que les 19 heures de vol tout juste effectuées par ce gros porteur marquent une étape majeure pour l'avenir des vols commerciaux. 17 000 km sans escale, c'est désormais accessible. Un mois et demi après son vol inaugural, le nouvel A350 d'Airbus, capable de transporter 238 passagers, repousse les limites avec son réservoir supplémentaire de 20 000 litres. Plus de carburant et moins de passagers, avec une cabine pensée pour anticiper les besoins physiologiques des passagers sur plus de 20 heures de vol, explique la compagnie australienne Qantas Airways, qui en a commandé 12. Le premier appareil sera livré en avril. Avec son projet Sunrise reporté plusieurs fois, Qantas souhaite relier pour la première fois Sydney à Londres sans escale en 22 heures de vol, 4 heures de moins par rapport au vol avec une escale. L'offre devrait être proposée en octobre 2027.
Allez, 8h38, les marchés.
Votre rendez-vous avec N2F, la solution qui simplifie vraiment la gestion de vos notes de frais. Plus d'infos sur n2f.com.
On est dans le rouge à 20 minutes de l'ouverture, Étienne Braque.
Moins 0,2% pour le CAC 40, hein, l'Europe qui est bien sûr toujours pénalisée par ce baril de pétrole à 100 $, un baril qui est sur des plus hauts de fin mai. Si hier, typiquement, ça profitait à Total Energy, c'est une mauvaise nouvelle pour l'ensemble des valeurs cycliques. À suivre tout à l'heure à 9h, Volkswagen qui a publié ses résultats ce matin, qui revoit encore une fois à la baisse ses objectifs pour cette année. Encore un avertissement sur résultats. Finalement, les ventes ne seront pas comprises entre 0 et 3%, mais entre 0 et moins 3%. Le titre, c'est 2,7% ce matin en préouverture, sachant qu'il lâche désormais plus de 60% sur les 5 dernières années. Carrefour a publié ses résultats hier, c'est en ligne avec les attentes. Le marché brésilien est un petit peu plus compliqué, mais heureusement vous avez le marché espagnol qui est toujours au rendez-vous, et puis la France également hein, qui est en ligne avec les attentes. Et puis bien sûr encore beaucoup de résultats à suivre aujourd'hui aux États-Unis, avec hier soir Intel qui était en très forte hausse. Le titre a affiché une croissance de ses ventes de plus de 25% au deuxième trimestre, grâce notamment à ces puces qui ont été livrées dans des data centers pour faire tourner l'intelligence artificielle.
Vous restez avec moi sur le plateau, Étienne Braque.
Avec plaisir.
Dans un instant, nous recevons Thierry Laborde, directeur général délégué de BNP Paribas. Il y a plein d'actu ce matin du côté des banques. Les résultats de BNP Paribas, bien sûr, mais aussi les décisions de la Banque Centrale Européenne. Le taux à 10 ans, l'euro numérique, beaucoup, beaucoup de sujets à traiter en 10 minutes. À tout de suite.